Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous venez de lire cette belle page d'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc il est important, et c'est ce que nous demande, ce que recommande l'Église particulièrement dans les sermons, de commenter l'évangile, et c'est important de se rappeler le contexte de cette petite page d'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5. Cette page se trouve dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est la promulgation, une des promulgations les plus solennelles par notre Seigneur Jésus-Christ de la loi évangélique, de la loi nouvelle. Cette loi nouvelle s'ouvre par les béatitudes et ensuite il y a cette belle page qui est utilisée pour la messe des saints docteurs. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si le sel s'affadit, qu'est-ce qu'il en sera, etc. Donc vous connaissez ces beaux passages et notre Seigneur Jésus-Christ enchaîne en disant que notre justice, c'est-à-dire notre sainteté, notre vision de la vie spirituelle doit s'élever au-dessus de celle des pharisiens. Et c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ va enchaîner avec des exemples particuliers. Voilà ce que dit la loi, et notre Seigneur ne vient pas abolir cette loi, il vient la parfaire. Et moi, je vous dis ceci. Et là, on a le premier cas d'une liste qui est faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce à quoi notre Seigneur Jésus-Christ nous invite, c'est d'abord à une réforme intérieure. Mais attention, attention à ne pas comprendre mal ces paroles de notre Seigneur. Il faut bien les comprendre dans le contexte. Et dans le contexte, il parle de nos relations individuelles entre nous, de nos relations personnelles. Il ne parle pas de la société en tant que telle, notamment de ce que doivent faire les autorités de la société, que ce soit au niveau du jugement, que ce soit au niveau éventuellement de la peine de mort ou autre, hein, puisqu'il s'agit du cinquième commandement, « Tu ne tueras point ». Donc c'est important de bien le rappeler. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, et il ne faut pas donc extrapoler ce qui s'applique ici à nos relations entre personnes individuelles, et à la question de la gestion de la société, qui est un autre niveau puisqu'il y a un bien commun au-dessus. Ceci dit, donc, le message premier de notre Seigneur est que notre vie doit être d'abord une vie intérieure. La justice telle qu'elle est considérée par les pharisiens est une justice extérieure. C'est-à-dire, il suffit d'observer extérieurement les commandements de Dieu et puis tout ce qu'ils ont ajouté, les pharisiens, toutes les pratiques qu'ils ont ajoutées aux commandements de Dieu, il suffit de ça pour être sauvé. Or, évidemment, cela est faux et notre Seigneur doit impérativement rectifier la pensée de ses apôtres, la pensée de ses disciples. Donc la vie chrétienne est d'abord une réforme intérieure avant de réformer ou de penser aux actes extérieurs. Notre Seigneur dit en d'autres endroits, c'est ce qui sort de la bouche qui vient de notre cœur et c'est cela qui souille l'homme, hein. Puisque on se rappelle de cette page d'évangile où les pharisiens reprochent aux apôtres de ne s'être pas lavé les mains rituellement, je parle, avant de manger. Donc c'était grave parce qu'ils n'avaient pas observé les traditions. Et notre Seigneur le fait la leçon en rappelant que ce qui est le plus important, c'est ce qui sort de notre bouche, pas ce qui entre dans notre bouche. Parce que, tout simplement, ce qui en sort, en particulier nos paroles, viennent de notre cœur. Donc, il faut d'abord réformer notre cœur, travailler sur notre vie intérieure, et c'est là que nos actes extérieurs seront animés par cette vie intérieure. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne dit absolument pas que on n'a rien à faire des actes extérieurs et que notre vie chrétienne, c'est ce que nous ressentons au fond de notre cœur. Non, pas du tout. Il ne nie pas les actes extérieurs, mais il les relie à leur cause, les actes intérieurs. L'exemple qui est donné ici dans cette page d'évangile, ne point tuer. Un commandement, une interdiction, un acte extérieur. C'est assez clair. Ça devrait l'être. Malheureusement, beaucoup détournent même ce commandement de Dieu. Par exemple, les animalistes. Enfin, ne point tuer, ils l'appliquent à tout. Non seulement à l'homicide, mais aussi au fait qu'on n'aurait pas le droit de tuer les animaux. Dans ce cas-là, lorsqu'on écrase un gentil petit grain de blé pour en faire de la farine, on écrase un bébé blé. C'est un être vivant. Donc ne point tuer, il faudrait l'appliquer non seulement aux animaux, mais aussi aux végétaux. Donc, le commandement, le cinquième commandement, ne point tuer, il s'agit de l'homicide. L'homme a pouvoir sur toute chose, Dieu lui a donné, sur les choses matérielles et donc sur les animaux qui ne sont que matériels, qui n'ont aucune spiritualité et qui sont créés pour l'homme, ici-bas, pour la vie de l'homme ici-bas. Parce que pour la vie de l'homme dans l'autre monde, les animaux ne servent plus à rien, ni à la nourriture, ni comme, on va dire, soutien moral, ça ne sert plus à rien quand on voit Dieu directement. Donc, dans l'autre monde, les animaux ne servent plus à rien. Nonobstant le fait que les animaux n'ont pas d'âme spirituelle. Donc, ne point tuer, c'est l'homicide. Évidemment, brièvement, vous savez qu'il y a des exceptions, notamment au niveau de la société. Quand la société est agressée par des ennemis intérieurs, donc les délinquants les plus graves et certains, la société est en droit d'appliquer la peine de mort. L'Église a toujours dit que la peine de mort était quelque chose de tout à fait valable. Bien sûr, moyennant des règles précises, on ne va pas condamner n'importe qui pour n'importe quel crime, n'importe comment. Deuxièmement, au niveau de la société, les ennemis extérieurs, c'est le droit de la guerre. Pourquoi je le signale ? Ben parce que Monsieur Prévost, qui se fait appeler Léon XIV, en a encore dit une cette semaine par rapport à cela, en disant qu'aucune guerre ne pouvait être bénite de Dieu. Alors déjà, c'est complètement contraire à la Sainte Écriture, directement. Dans l'Ancien Testament, il y a des guerres qui sont requises et demandées directement par Dieu. C'est un fait, ça fait partie de la révélation. On ne peut pas s'en prémunir, bien sûr, pour faire tout et n'importe quoi. Et ce qui est vrai, c'est que à la base de chaque guerre, en dehors de ces cas précis dans l'Ancien Testament, qui sont des cas très 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 spécifiques, dont on ne peut pas se prévaloir aujourd'hui dans le Nouveau Testament, mais c'est un fait. Donc, au-delà de ces cas, la plupart du temps, même dans tous les cas aujourd'hui, à la base de la guerre, il y a un péché de quelqu'un. Violation d'un droit international, de ceci, de cela, etc. Donc ça, on est d'accord, c'est vrai. Mais alors, passer au monde bisounours, où tout est réglable par le dialogue, et tout le monde il est gentil, et on peut s'entendre sur tout, eh ben non. Ça, c'est une négation du péché originel, de ses conséquences, et aussi du droit à un peuple, pour un peuple, de se défendre contre un injuste agresseur. donc de lui faire la guerre. Donc, encore une fois, bien sûr, malheureusement, ils ont tout faux, et notamment sur ces questions-là, en raison de quoi ? Eh bien, d'une fausse notion de la dignité humaine, celle-même prêchée à Vatican II. Bien sûr, ne point tuer, il y a aussi la légitime défense pour l'individu, hein, mais au niveau de l'individu, il n'est même pas obligé, sauf dans certains cas, d'appliquer la légitime défense. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Retenons bien que le commandement, c'est ne point tuer. C'est l'homicide qui est condamné parce que la vie appartient à Dieu. Donc en même temps qu'on loue les personnes qui ont supprimé la peine de mort, n'est-ce pas ? On les panthéonise, etc. En même temps, on va voter des lois pour tuer les vieux. En même temps, on vote des lois pour tuer les enfants dans le ventre de leur mère. Ça, c'est tuer. Ça, ce sont des homicides. Ça, c'est grave. Donc, ne point tuer. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « justice supérieure ». En quoi elle consiste ? Comme le dit saint Augustin dans son commentaire, beau commentaire hein, d'ailleurs sur ce sermon sur la montagne, il nous dit que non seulement nous ne devons pas tuer, mais nous ne devons pas nous irriter sans raison. Il peut y avoir des raisons, des justes colères. En règle générale, ces raisons sont plutôt rares. Et puis surtout, la juste colère doit rester proportionnée. On a des exemples bibliques de juste colère. Notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, qui chasse les vendeurs du temple. Il se fabrique un fouet, il renverse tout, il fouette ses marchands du temple et les jette dehors. Hein, soit dit en passant, maintenant dans les temples, dans les églises, on a des curés qui vont installer des écrans pour que les gens puissent regarder au frais la Coupe du Monde de football. Bon, ça, certainement, ce serait approuvé par notre Seigneur Jésus-Christ. On aura tout vu. Pas encore. Donc, il faut aller à la racine du problème. Qu'est-ce qui va causer les meurtres ? Ce qui va causer les meurtres, c'est l'inimitié, c'est la haine. C'est cette haine qui va être entretenue. Donc, si nous voulons, et nous devons le vouloir parce que nous devons vouloir être chrétiens, nous devons élever notre justice simplement à nous abstenir des actes extérieurs violents contre le prochain, mais à convertir notre cœur, c'est-à-dire à nous abstenir de toute haine, de tout ressentiment, de toute inimitié envers le prochain. Alors vous voyez que là, c'est un peu plus difficile, parce que s'abstenir d'actes extérieurs, pardon, eh oui, en plus il y a la loi pour ça, parce que si on tue quelqu'un et qu'on se fait attraper, on va finir en prison, même si on, soi-disant, on avait une bonne raison de le faire. Donc il y a ce genre de frein extérieur. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y a pas toujours des freins. Et donc on va se laisser aller à des sentiments qui ne sont pas bons. Des sentiments qui pourraient, si ces freins extérieurs étaient levés, mener au meurtre. Donc, il faut d'abord travailler là-dessus. Notre Seigneur Jésus-Christ revient après sur l'extérieur. Il va nous donner un exemple gradué donc en trois niveaux, n'est-ce pas ? Celui qui se met en colère contre son prochain, qui est passible du jugement. Celui qui insulte son prochain en lui disant « raca », bon après c'est discuté parmi les exégètes qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette insulte, hein, plus ou moins homme de rien. Et troisièmement, celui qui traite le prochain de « fatoué », c'est-à-dire fou, mais dans le sens biblique du terme, on pourrait le rattacher au fait d'accuser quelqu'un d'impiété vis-à-vis de Dieu, ce qui est évidemment la chose la plus grave. Donc, trois niveaux. Le niveau local, on va dire, du jugement, parce que c'était en fait connu hein, par les auditeurs de notre Seigneur. On a le péché de base, condamnation au niveau local, colère basique. Le deuxième niveau, on est jugé par le concilium, par le conseil, et donc à un niveau plutôt national, le Sanhédrin à l'époque, quand notre inimitié s'est traduite par des actes déjà extérieurs, en traitant le prochain de raca. Si on pousse l'insulte un peu plus loin, c'est que notre haine est allée encore plus loin. Et donc, le châtiment est encore plus grave, celui de la géhenne de feu, la peine de mort qui représente évidemment le jugement divin et l'enfer. Donc, ce que nous voyons, c'est que si on laisse couver dans notre cœur ces ressentiments, cette haine, elle va finir par s'exprimer vis-à-vis des personnes. D'abord de façon bénigne, ensuite de façon plus violente et extérieure, en mots, et ensuite dans les insultes les plus graves, avant même d'atteindre le niveau suprême qui est justement l'homicide, le meurtre. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, il faut travailler en amont. Et le chrétien doit travailler d'abord sur son cœur. Donc pour que ces paroles ne sortent pas de notre bouche, eh bien il va falloir travailler sur ce qui se passe dans notre cœur, sur nos ressentiments. Et notre Seigneur de nous donner un moyen quotidien de le faire. Il donne un exemple. En réalité, dans cette page d'évangile se poursuit avec un deuxième exemple, mais retenons ce premier exemple qui est le plus important d'ailleurs. Lorsque vous allez prier au temple, offrir un sacrifice, vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre votre prochain, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, soit que vous avez quelque chose à vous reprocher vis-à-vis de lui, soit que vous auriez quelque chose à lui reprocher. Notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas de distinction, c'est très important à comprendre. Parce que on pourrait avoir un sentiment d'orgueil et se dire, c'est à l'autre de demander pardon, etc. Et je n'ai rien à faire, et tant qu'il ne se passe rien, je ne pardonne pas. Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous dit pas cela. Je ne rentre pas dans tous les détails du pardon, je le répète, ne comprenez pas mal ce que je dis maintenant. Et si vous avez des doutes, vous venez me trouver, comme pour tout ce que je peux dire. S'il y a une question, un problème, je suis toujours disponible. C'est mieux que d'aller raconter après n'importe quoi dans mon dos, soit dit en passant. Donc, parce que, par exemple, que les parents exigent de leurs enfants de demander pardon, il le faut. C'est une question aussi d'éducation. Bien sûr, il faut graduer. On ne va pas être derrière leur dos à chaque broutille qu'ils font, à chaque bêtise qu'ils font, parce que là, ce serait aussi contre-productif au niveau de l'éducation. Parce que ce serait aussi leur mettre dans une éducation de type pharisaïque. Il n'y a que l'extérieur qui compte, alors que le problème est la réforme intérieure. Notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous nous réformions intérieurement. Et donc, il évoque ce cas, on va au temple, on va offrir un sacrifice, on se rappelle qu'on a quelque chose contre le prochain ou le prochain a quelque chose contre nous. Eh bien, pour que notre don, notre offrande soit agréée de Dieu, il faut d'abord régler cette dette entre nous et le prochain. D'une façon ou d'une autre, je le répète, je ne rentre pas dans tous les détails de cette question du pardon. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre l'état d'esprit. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller trouver physiquement le prochain. Parfois, on ne le peut pas. Il n'est pas nécessaire tout le temps de formuler explicitement le pardon. Parfois, ça peut être même contre-productif. Bref, ce qui importe, c'est la mentalité, c'est l'état d'esprit. Et spécialement, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre que cette mentalité, elle va être acquise au moment de la prière. Notre bienheureux Père Saint Benoît, dans sa règle, et c'est une coutume qui est une coutume des plus anciennes dans le christianisme, nous fait réciter ou chanter intégralement la prière du Notre Père à toutes les heures du bréviaire. Et non pas en privé, comme ça a été rajouté dans le bréviaire romain à une certaine époque, puis ôté. Non, à une place centrale dans l'office. De même que le Notre Père est à une place centrale dans la messe, à savoir juste après le canon de la messe et juste avant la communion. Et l'idée du Notre Père à ce moment-là est la même que celle qu'on retrouve dans la règle de Saint Benoît. À savoir que Saint Benoît relie le Notre Père, bon, non seulement toutes les demandes qui résument toute la prière chrétienne, oui, mais notre bienheureux Père Saint Benoît relie spécifiquement Notre Père au pardon, le Notre Père au pardon. Il dit, on va le réciter ou le chanter à toutes les heures parce que dans les monastères, dans les communautés, j'ajouterai dans les familles, il peut y avoir, et il y a effectivement chaque jour, ce qu'il appelle des épines de scandale, des frottements, des paroles parfois qui sont mauvaises. Et il veut que nous prions vraiment consciemment le Notre Père, spécialement dans ses paroles, dit-il, mais pas, il ne dit pas simplement ses paroles. De sorte que nous nous retrouvons tous à répéter, dit-il, cette promesse. Cette promesse, le mot est très fort. Cette promesse que nous faisons lorsque nous disons « Et dimitte nobis debita nostra » et « Remettez-nous nos dettes, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Saint Benoît emploie le mot « sponsum ». Sponsum en français, ça a donné en particulier réponse, responsum. Mais l'origine et l'étymologie est bien plus profonde. Elle est bien plus profonde parce qu'elle vient du grec. Et en grec, cela signifie une offrande sacrée, une libation. Ça n'a plus ce sens en latin parce que le latin va utiliser d'autres mots purement sacrés pour cette libation. Mais le verbe spondere, spondeo, en latin, vient du grec. Et du grec qui signifie un acte sacré qui va sceller une promesse. Donc Saint Benoît est vraiment dans ce sens profond. Et les traducteurs, pour le coup, ne le manquent pas. Lorsque nous disons, et ça doit valoir non seulement pour les moines, mais pour tous les chrétiens, lorsque nous disons « Et dimitte nobis debita nostra », lorsque nous disons « Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », nous devons le considérer comme une promesse de notre part. La promesse de pardonner à tous ceux qui nous offensent. Ce mot, d'ailleurs, a donné d'autres mots, comme le mot « époux ». Très important. Je vous parle de la communauté bénédictine, et il y a la communauté, évidemment, familiale. Donc le Notre Père doit être la base aussi de la prière familiale. Parce qu'il faut une prière familiale, en famille. Notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à cela, à prier ensemble. Et à prier quoi ? À prier la prière qui nous a enseigné, le Notre Père, qui est, dans ces paroles-ci, c'est une promesse. Et donc les époux, eh bien, les épousailles, c'est une promesse sacrée. Et là aussi, il peut y avoir beaucoup d'accrochages, sauf que ces accrochages ne pourront être réglés que par cette mentalité chrétienne. C'est pas possible autrement. Donc il faut sortir à tous les niveaux, au niveau de notre vie personnelle, il faut sortir des schémas de la société actuelle, c'est-à-dire de schémas qui sont autocentrés, égocentriques, égoïstes. Et donc, on s'offense de tout et de rien. Mais en même temps qu'on s'offense de tout et de rien, on ne pardonne rien. Et ça, c'est à l'encontre de la vie chrétienne. Par conséquent, eh bien, chers frères, quelle est la leçon, évidemment, de cette page d'évangile ? C'est que nous ne devons pas être des pharisiens. Nous sommes des chrétiens. Et donc, si nous sommes des chrétiens, nous devons nous réformer intérieurement. Pas nous en tenir à une observance purement extérieure des commandements de Dieu, des commandements de l'Église. Les frictions, les oppositions dans la vie de tous les jours sont fréquentes, spécialement avec nos proches. Je veux être très concret pour chacun d'entre nous, afin que ce que nous disons maintenant se traduise au quotidien. Parce que notre but, c'est de progresser chaque jour. Par conséquent, notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Église nous invitent à être vigilants avant tout sur nos pensées, sur nos ressentiments envers le prochain, quoi qu'il se passe. Entretenir du ressentiment, c'est contre la charité chrétienne. Quoi qu'il se passe, quelque injustice qu'on ait à subir, ce n'est pas chrétien. Et là, je vous invite, je n'y ai pas fait référence, mais je vous invite à relire l'épître d'aujourd'hui. Parce que l'Église faisant bien les choses, l'épître et l'Évangile, l'épître de Saint-Pierre ici et l'Évangile se répondent par rapport à ça. Il nous dit, Saint-Pierre, de ne pas rendre malédiction pour malédiction. Des mauvaises paroles contre des mauvaises paroles. Sinon, on ne s'en sort jamais, en fait. Si personne ne fait d'effort, si personne ne lutte contre son ressentiment, on ne s'en sort jamais et on crée des divisions de plus en plus profondes et on entretient, en réalité, un sentiment de haine. Et, ou du moins les commencements d'un sentiment de haine, et ça va de plus en plus loin, et on va de plus en plus loin dans les paroles, dans les mauvaises paroles, et on va de plus en plus loin dans les mauvais comportements, parce que à l'origine on n'a pas éteint ce feu de la colère. Il suffit d'une étincelle, mais sur cette étincelle, si on prépare en permanence le feu, c'est-à-dire qu'on ajoute tous les éléments, des éléments les plus fins, les plus petits, si on rajoute de l'essence, de l'huile là-dessus, même si le feu n'est pas encore allumé, c'est ça le ressentiment. À la moindre étincelle, ça va faire un grand brasier. Et nous serons responsables de cela parce que nous aurons monté ce feu. C'est la période, n'est-ce pas, les feux de la Saint-Jean, enfin c'est un peu complètement idiot par ces chaleurs, bref. Et puis c'est une perte une perte énorme en bois qui ne sert à rien. Bref, mais soit dit en passant, tout est préparé pour qu'il suffise de mettre l'allumette et que tout flambe. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous entretenons dans notre cœur le ressentiment. Donc il faut être très vigilant sur ce qui se passe dans notre cœur. Être vigilant sur nos paroles. Certaines personnes ont la colère froide, qui ne dit rien, etc. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous savez, c'est les personnes cocottes minutes. Et au bout d'un moment, ça explose. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on entretient en fait le ressentiment. Puis il y a d'autres personnes qui vont soulever le bitonio, là, la soupape, régulièrement, en balançant des petites pointes. C'est pas bon non plus. Ça entretient ces ressentiments et ça cause évidemment des mauvaises choses. Donc il faut être vigilant sur nos paroles, même nos petites paroles. Il faut faire un retour sur nous-mêmes. Parfois on va dire ça sort tout seul, ça devrait pas. Et le but de la vie chrétienne, c'est de faire en sorte que nous soyons tellement chrétiens, tellement charitables, que ça ne sorte pas. Que nous n'ayons plus, finalement, ces ressentiments. On ne peut pas s'interdire d'avoir des sentiments, d'être piqué au vif lorsqu'on est injuste envers nous, ou qu'on considère qu'on a été injuste envers nous. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc, utilisons les moyens que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, et le grand moyen, c'est celui de la prière. Et de la prière spécialement au niveau communautaire, au niveau familial, de la prière en commun. Et spécialement la prière du Notre Père, avec cette volonté explicite, comme nous le rappelle Saint Benoît, de promettre, de remettre les fautes à ceux qui nous remettent les offenses, à ceux qui nous ont offensés. Parce que c'est la seule mesure dans laquelle nous serons pardonnés par Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous le dit à d'autres endroits. Vous serez pardonnés dans la mesure avec laquelle vous aurez pardonné. Nous voulons éviter la dureté du jugement divin, très juste. Eh bien, dès ici-bas, il faut aussi se mettre en ordre de marche, spécialement dans la charité envers le prochain, parce que nous voyons que c'est quelque chose de très important aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voyons différemment le Notre Père, pratiquons le Notre Père, et luttons contre ces pensées mauvaises, contre tous les ressentiments de notre cœur. Remettons, promettons de remettre, de pardonner les péchés, les offenses à ceux qui nous ont offensés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.